Et oui, le générique de Vendredi Théâtre, il s'agit d'un extrait de Roméo Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, l'actualité théâtrale sur Divergence FM. Je vais commencer tout de suite par deux petites annonces. On a eu des problèmes d'émetteur la semaine dernière, donc pour l'émission d'hommage à Richard Mitou. Alors les problèmes sont résolus, vous pouvez écouter l'émission sur Richard Mitou et podcaster sur le site de Divergence. Et deuxième petite annonce, je viens d'apprendre que La mort de Don Juan de Damien Goudet va être remontée. Ça sera le 19 janvier à Pierre Tabar, au théâtre Pierre Tabar, à 15h. Voilà, Vendredi Théâtre, je suis avec Grazia qui est avec moi. On attend encore d'autres chroniqueurs qui vont arriver. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Et nous recevons le banquet d'Auteuil. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Jean-Marie Besset. Bonjour.
Bonjour.
Régis de Martrin-Donos, bonjour.
Bonjour à vous.
Et nous attendons Gilbert Desvaux, Félix Beauperrin et un autre comédien, je pense.
Qui non, je crois qu'on sera au complet.
On sera au complet, parfait. Alors, le banquet d'Auteuil, de quoi s'agit-il? On peut déjà noter que le sous-titre du banquet d'Auteuil, c'est « Amour, art, sexe, argent entre grands hommes et jeunes gens en 1670 au printemps ». Alors, le banquet d'Auteuil explore un aspect de la biographie de Molière que j'ignorais tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce banquet d'Auteuil?
Ça part d'un épisode historique de la vie de Molière qui est avéré, puisqu'il est raconté par plusieurs biographes, du vivant de Molière. Et c'est l'époque où, en 1670, Molière a 48 ans. Il a beaucoup de déboires conjugaux, vous voyez. Bon, en ce
avec
moment,
Madame Béjart.
C'est très d'actualité. Enfin, mais bon, à l'époque aussi, il avait épousé une femme beaucoup plus jeune que lui, Armande Béjart, qui avait 20 ans de moins que lui, mm-hmm. et qui était une coquette, hein, qui est un peu le modèle de Célimène, enfin de beaucoup de personnages féminins des pièces de Molière. Et après des disputes de plus en plus violentes, ils ont décidé de se séparer. Et donc, lui est allé vivre à Auteuil, qui était un petit village à côté de Paris à l'époque. Hein. Ce n'est pas du tout la métropole. Enfin, maintenant, aujourd'hui, c'est un quartier de Paris, évidemment. Et donc, il s'y installe avec sa vieille servante, La Forêt, avec son ami d'enfance, Chapelle, hein, qui est un écrivain pour écrivain, que la pièce, d'ailleurs, réhabilite, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît mal. Et puis, un jeune comédien qui a 17 ans, qui revient dans sa troupe à ce moment-là, après avoir parcouru la France. Il avait déjà été chez Molière 3 ans plus tôt, à l'âge de 14 ans. Et là, il revient et Molière a une passion pour ce jeune homme, qui va devenir d'ailleurs le plus grand acteur de son temps.
Il jouera jusqu'à la Régence, d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
Oui, parce qu'il a vécu jusqu'à 76 ans, ce Michel Baron. Et Voltaire en parle dans ses mémoires. Il dit « Le vieux Baron est venu encore aujourd'hui jouer Britannicus à la cour. » La cour, c'était celle de Louis XV. Mais là, c'est un tout jeune homme qui n'a encore pas fait grand-chose et que dont Molière s'éprend.
Ça, c'est vraiment un aspect qu'on ne connaît pas. Moi, je n'avais jamais lu ça sur cet amour de Molière.
C'est vrai que ça a été très connu jusqu'à la fin du XIXe siècle. Hein. Proust en parle librement dans La recherche du temps perdu.
C'est vrai.
Quand Charlus fait la galerie des homosexuels célèbres, Molière est en digne place. Il est en deuxième position dans la liste de Charlus. Et Brichot, d'ailleurs, ne le reprend pas. Donc, c'était très connu... Moi, parmi mes interprètes, j'avais Jean Negroni dans les premières années de ma carrière théâtrale. Et Jean Negroni me disait, mais tout le monde le sait. Moi, mon prof de français me le disait. Mais enfin, Jean Negroni, il était né dans les années 1920. Donc, si vous voulez, quand il était au lycée, c'était dans les années 30. On le savait encore. Enfin, son prof, en tout cas de français, le disait librement. Et puis, ça a été, je crois, enfoui. Peut-être par la Troisième République, à l'époque où Molière est devenu l'auteur par excellence du domaine français, puisqu'on appelle aujourd'hui le français la langue de Molière.
Bien sûr.
Donc je crois que cet aspect a été un peu occulté, disons. Mais moi, je ne veux pas plaquer le mot homosexuel sur Molière, d'abord parce que le mot n'existait pas, évidemment, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, mais je veux dire, il faut se replacer dans un contexte, ce XVIIe siècle, où il n'y avait pas de distinction comme aujourd'hui, si vous voulez, entre hétéro et homo. On était dans un siècle où soit on était un chrétien, un catholique, pratiquant, bon père de famille, etc., ou bien on était un libertin, quoi. Et on était un libertin pas seulement en matière de mœurs, mais en matière de religion aussi, oui, puisqu'on ne croyait pas en Dieu, du coup. Donc là, c'est Molière et ses amis libertins, quoi, qui... Et autour de Molière, en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup d'homosexuels, enfin, qui ne s'appelaient pas, encore une fois, homosexuels, mais qu'on appellerait aujourd'hui des homosexuels.
Vous les appelez les bougres, si je ne me trompe.
Oui, c'est ça. Mais même, la plupart étaient mariés. Hein. Mm-hmm. C'est le cas de Lully, évidemment. Lully, oui. Lully a fait 6 ou 7 enfants à sa femme. Mais il était absolument, enfin, on dirait bisexuel. Donc aujourd'hui... Et puis, c'est le cas d'Assoucy, de Pierrotin, enfin, de personnages que la pièce fait revivre et qui sont passés par Montpellier. Donc, ça a une pertinence particulière de créer cette pièce, enfin, que Régis de Martin Donos et Gilbert Desvaux ont mis en scène ici à Montpellier. Ce soir, c'est la troisième.
Donc, comment ça se passe? Comment le public accueille?
C'est très étonnant parce qu'on a des... Enfin, étonnant. On a des... Entre hier et avant-hier, on a eu des très, très belles salles. Et c'est vrai que moi, j'ai été très surpris de l'écoute du public. Où en tout cas, il se passe quelque chose autour de cette pièce. Mmh. Je pense que c'est très bien accueilli. C'est beaucoup applaudi. On a eu une rencontre hier qui a été absolument passionnante, où les gens restent, les gens sont heureux du spectacle et ont devant les yeux de toute façon quelque chose de nouveau, de passionnant, on ne peut pas rester indifférent devant la pièce de Jean-Marie parce qu'elle soulève... Elle soulève des événements historiques dont on a rarement entendu parler. Mmh. Et puis, le spectacle est quand même... la pièce parle beaucoup d'amour, d'amitié. Le spectacle est une sorte de communion, comme ça, avec 10 acteurs en scène. Et je crois que c'est un spectacle qui fait du bien. Et on rit, voilà.
Alors, ce banquet, donc, c'est une réunion d'amis de Molière, qui sont tous des libertins, et qui se réunissent chez Molière pour un banquet, et où les questions d'amour et d'argent et de sexe vont être évoquées.
Et d'ambition.
Gilbert Desvaux qui vient d'arriver.
Et d'ambition et de création artistique. Et puis, il convoque aussi, sans faire tourner de table, mais
tout d'un coup... Il y a un fantôme qui arrive.
Tout d'un coup, il y a un fantôme qui arrive. Qui est le fantôme, et non des moindres, qui est leur meilleur ami, enfin, disparu depuis 15 ans, et qui est Cyrano de Bergerac. Voilà.
On va faire une petite pause musicale le temps que Gilbert Desvaux puisse s'installer. Et donc j'ai choisi un petit Lully, justement, parler de Lully, la marche pour la cérémonie des Turcs. Divergence FM 93.9, donc la marche pour la cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste Lully. Je suis toujours avec Jean-Marie Besset, Régis de Martrin-Donos et Gilbert Desvaux vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Et nous parlons du banquet d'Auteuil qui a lieu actuellement au 13 vents. Justement, puisque vous venez d'arriver, Gilbert, je vais vous poser des questions sur la mise en scène que vous avez assurée avec Régis. Oui. Quels ont été vos partis pris pour cette mise en scène ?
Alors, c'est une pièce qu'on a programmée un peu au dernier moment avec Jean-Marie. Ça s'est fait quand Jean-Marie a su qu'il ne serait pas prolongé. Au départ, c'était pas forcément une pièce que je devais monter. Jean-Marie avait réfléchi à un projet qui est finalement radicalement différent de celui que nous avons mené avec Régis. Jean-Marie avait aussi envie de, dans son hommage au 17e, de faire un spectacle, un peu un spectacle à machine, en costume d'époque, avec tout le côté comme ça, machinerie, etc. Et nous, avec Régis, quand on s'est embarqués tous les deux dans l'aventure, d'abord Régis, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, on s'est connus grâce au Festival Nava et puis au comité de lecture du Théâtre des 13 Vents. Il m'a assisté sur mes deux précédents spectacles. Et moi, je savais qu'il avait beaucoup lu la pièce avec Jean-Marie, quand Jean-Marie l'écrivait, etc. Et je savais qu'il la connaissait dans sa profondeur, alors que j'en avais une vision un peu plus, extérieure sur l'esthétique, sur. Et avec Régis, on était d'accord justement pour prendre le parti opposé à celui de Jean-Marie. C'est-à-dire plutôt questionner le théâtre, pas forcément chercher à représenter ce siècle. Et puis c'était une manière aussi de dire au revoir à ce théâtre en utilisant tous ses secrets, tous ses recoins, ouvrir la porte du lointain, descendre dans les profondeurs, laisser les murs apparents, etc. Et puis c'est le théâtre dans le théâtre. Molière, c'est un homme de théâtre. Sa maison est un théâtre. Le théâtre devient sa maison. Ça, tout ça, je trouve que ça marche très très bien. Et j'aime beaucoup ces intuitions que nous avons eues avec Régis et qu'on a mis en forme avec Gérard Espinoza. Et puis sur la question des costumes, où là on est dans une espèce de baroque flamboyant contemporain, mais finalement un peu intemporel. Moi ça me plaît beaucoup parce que je pense que la pièce effectivement elle se passe au 17e, mais elle est écrite par un homme du 21e siècle et elle questionne autant le rapport de Molière à ses amis, à son époque, que Jean-Marie à ses amis, à son époque, et il y a un va-et-vient permanent. Je trouve que le 17e est dans la langue. Mmh. Et moi, j'ai toujours dit à Jean-Marie, c'est très bien de faire un grand spectacle, disons comme pouvaient faire William Christie et Jean-Marie Villégié dans le passé, ou Benjamin Lazare aujourd'hui. Mais la victoire, elle sera totale si le texte est entendu. C'est par le théâtre, il se résout par des acteurs et des mots avant tout. Et je suis persuadé que cette pièce, on peut la jouer en costume noir devant un rideau noir avec une très belle lumière et qu'on pourrait faire entendre sa pensée, sa force, etc. Donc, il y a eu comme ça un peu divergence, pour reprendre un mot qui vous est cher, mais finalement, je crois que Jean-Marie, au final, il est content et adhère à cette vision. Et voilà, ça a été le parti pris principal. Après, c'est un projet de troupe. Et là, Régis peut prendre la parole parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur la distribution. Et c'est un vrai projet de troupe et c'est rare de ne pas se tromper à ce point-là, en tout cas humainement. Il y a quelque chose, chaque acteur est à sa place, des acteurs qui viennent d'horizons très différents. Aussi dans cette envie de dire au revoir, c'était l'occasion d'intégrer quelques acteurs qu'on a rencontrés ici, comme Dominique Ratona.
Ah oui, le grand Dominique Ratona.
Ou Antoine Baillet, qui est sorti de l'école.
Antoine Baillet, national. Mais Dominique est quand même notre grand acteur comique. et on l'adore.
Et puis des acteurs de différentes époques de nos vies. Alain Marcel, qui est un de nos plus vieux amis, un de nos plus fidèles collaborateurs. Jean-Baptiste Marcenac, qui joue Molière, qui était dans Outrage aux mœurs il y a déjà 15 ans. Donc voilà, on vieillit ensemble.
Alors pour le spectacle, moi j'étais avec Grazia, on a vu le spectacle ensemble. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur tes impressions ou des questions ?
J'ai trouvé la mise en scène magnifique, comme d'habitude. Toutes les mises en scène de Gilbert sont et de cette fois-ci de Régis. Oui. Pardon, bah oui. La mise en scène est magnifique, Elle est tous ces voiles qui descendent. C'est vraiment effectivement un baroque mais léger quoi. C'est très léger. Ça passe très bien. C'est pas lourd du tout. Et la musique, j'ai beaucoup aimé aussi, le choix de la musique. C'est
Serge Monségu qui fait partie de l'équipe technique des 13 vents. Et puisque là, dans ce spectacle, vous avez pu voir dans le dossier de presse, on n'a pas affecté un décorateur, un costumier, etc.
Oui.
On a, dans cette idée de faire le spectacle avec les ressources de la maison, on a proposé, et tout le monde a dit oui, à toute l'équipe technique de devenir l'équipe artistique. Chacun a participé dans son métier, dans son art. Et Serge est un garçon formidable qui aura fait la musique de tous nos spectacles depuis 4 ans. Et là, une fois de plus, il a continué. Et on aime beaucoup ses propositions. On est très, très en harmonie avec lui. Mais comme on l'est avec Gérard pour la scénographie, Martine pour la lumière, Marie pour les costumes, Claude pour la régie, etc. Il y a une très, très belle équipe technique aux 13 vents. Et puis ce sont des gens qui viennent de la technique, mais qui finalement sont allés vers l'artistique et sont capables d'être aussi des créateurs.
Oui. Donc, vous avez utilisé toutes les ressources du théâtre, matérielles et humaines.
Oui, l'idée, c'était de ne pas dépenser d'argent.
Oui.
Parce qu'on n'en avait pas.
Donc, on a mis tout l'argent dans les salaires des acteurs.
Oui.
Parce que...
Il y a combien d'acteurs sur scène?
Parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire travailler les gens sans les payer.
Puis il y a Hervé Lassins aussi, qu'il faut citer, qui joue Chapelle. Il y a Frédéric Kiering qui joue Lully. D'ailleurs, Lully, par exemple, l'air que chante au moment de la noyade Antoine Baillet, qui a une très jolie voix, d'ailleurs. Parce qu'on utilise aussi, il faut dire, des talents. Ces acteurs sont des comédiens, mais ils sont aussi des... Parfois, ils ont des talents particuliers.
J'étais époustouflée,
le petit Quentin Moriot qui joue Ousmane, le jeune danseur turc de M. Lully, est un danseur qui pratique la danse classique. Ouais. Antoine Baillet a une très, très belle voix. Grégory Cartelier, qui joue Nantouillet, a fait de l'escrime. Donc, il y a tous ces talents-là d'un autre siècle aussi qui sont mis en valeur. Et d'ailleurs, vous parliez de musique, mais l'air que chante Antoine Baillet à la fin de l'acte 2, au moment de la noyade, c'est une idée d'Alain Marcel, parce qu'Alain Marcel, qui joue Cyrano, est aussi un metteur en scène d'opéra qui connaît très bien ce répertoire-là. Et donc, il a tout de suite attiré notre attention sur cet air qui a été le plus grand tube du XVIIIe siècle, ensuite, qui est tiré de Renaud et Armide de l'opéra de Lully, un des derniers opéras de Lully. Et donc, les plaisirs ont choisi pour asile ce séjour agréable et charmant. Et puis, il y a ce très beau vers que j'aurais personnellement donné un bras pour écrire, qui dit « Si l'amour ne donnait que des peines, les oiseaux amoureux ne chanteraient pas tant. » Voilà.
Je vais revenir au personnage de Cyrano. Donc, il y a le fantôme de Cyrano, parce qu'il est mort... Il doit être mort depuis au moins une dizaine d'années.
15 ans. Oui.
15 ans.
En 1670, il est mort depuis 15 ans.
Donc il revient à l'occasion de ce banquet, il revient d'entre les morts. Et d'ailleurs, il y a un moment qui m'a tout à fait intéressé, c'est le passage où la genèse un peu des fourberies de Scapin, parce qu'on voit donc Molière et Baron en train de réfléchir sur une pièce qu'avait écrite Cyrano, qui s'appelle Le Pédant joué, si je ne me trompe pas.
Ça.
Et ils essayent de la réécrire et de la faire plus théâtrale.
Oui, alors la pièce permet de la redécouvrir, cette pièce, Le Pédant joué, mais c'est déjà un miracle qu'elle nous soit parvenue.
Oui.
Parce que figurez-vous qu'elle était tellement sulfureuse à l'époque, parce que Cyrano, certes, était pétri d'antiquité gréco-latine, mais enfin, il avait une invention langagière tout à fait proche de celle de Rabelais, si vous voulez. C'était incroyablement inventif, la langue de Cyrano. Mais Le Pédant joué, finalement, est une pièce qui sent beaucoup le fagot à l'époque, puisqu'elle a des thèses très libertines. Et Le Pédant joué a été publié plusieurs fois par l'ami de Cyrano, Lebray. Au fur et à mesure qu'elle était publiée, elle était brûlée par les jésuites. Vous voyez, donc c'est un miracle que des exemplaires nous soient parvenus. Mmh. Peut-être par des bibliothèques privées ou la bibliothèque Mazarine en avait un exemplaire, mais elle, même aujourd'hui, si vous voulez la trouver en librairie, c'est très difficile.
Elle est sur Internet.
Oui, elle est sur Internet, mais encore parcellairement. Enfin, il y a des...
plusieurs versions, ouais. On ne sait pas trop.
Alors moi, je pensais à vous quand je voyais cette réécriture. Ça doit être tout à fait jubilatoire pour un écrivain d'imaginer comment Molière a écrit ses fourberies de Scapin.
Bah, c'est un hommage à l'art d'écrire, peut-être, et l'art même d'écrire du théâtre, puisque bon, il s'est trouvé que j'ai écrit cette pièce pratiquement en arrivant ici. Ça a coïncidé à l'époque où Régis est arrivé parmi nous. On a commencé à écrire ensemble, à relier, parce que c'est un art à la fois de passage de relais, et puis, comme disait Montaigne, nous ne faisons que nous entregloser. Et je pense que c'est aussi un hommage, parce qu'on écrit rarement à partir de rien. On écrit sur d'autres écrits. Cet art est tout à fait un art palimpseste, en quelque sorte. Et on est... Voilà, donc la pièce montre bien ça, je crois. Enfin,
et Molière lui-même, toute sa vie, a été très critiqué par ses contemporains qui on le traitait de pilleur. Mais ce qui est très étonnant dans la démonstration à l'acte 4, à la fin de la pièce, c'est effectivement de voir comment Molière se sert de ce banquet qui a eu lieu la veille chez lui pour rebondir et écrire les fourberies de Scapin, et notamment grâce à ce jeune Turc Ousmane, qui est le répétiteur de Lully, qui fait partie de ce banquet et qui... Et dont Baron offre un baiser, et la jalousie de Molière, finalement, va dans un premier temps être à l'origine de la rupture entre Baron et Molière, et puis dans un second temps, comment Molière rebondit pour écrire sa farce la plus connue, la plus jouée. Donc ça c'est absolument passionnant de voir comment... les rouages de voilà comment deux histoires peuvent s'entremêler et finalement être dissimulées dans un texte, et on le découvre à l'acte 4, les fourberies de Scapin, qui est un texte complètement codé. Et la pièce de Jean-Marie permet de le décoder et de nous offrir une nouvelle version de ces fourberies qui est beaucoup moins sage qu'il n'y paraît.
Grazia, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, en parlant de jalousie, justement, il m'a semblé quand même que Molière était un libertin particulièrement fidèle. Enfin, je ne sais pas. Hein,
il est un petit peu en décalage par rapport aux autres.
À un moment donné, il a dit cette phrase: « J'espère de trouver plus de solidité dans le cœur des hommes ». Et il le dit, elle la répète. Hein,
il la répète parce que son ami Chapelle l'a mal entendu, ou en tout cas n'en croit pas ses oreilles qu'il ait pu dire ça, donc la lui fait répéter avant de sortir dans un éclat de rire, parce qu'il pense en effet que c'est un peu vain de penser qu'on va être plus heureux peut-être avec un homme qu'avec une femme.
Ah ça, je suis d'accord.
Du point de vue de la fidélité des animaux concernés, et que, comme on peut voir actuellement d'ailleurs, dans l'actualité, puisque bizarrement la pièce rejoint l'actualité d'une façon incroyable.
Absolument.
Parce que le pouvoir actuel nous offre quand même une replongée dans le grand siècle, parce que depuis les rois de France, il n'y a pas eu ce bal de favorites, enfin, comme ça.
Alors, ce banquet d'Auteuil, c'était un peu vos adieux aux 13 vents. Et quels sont les projets pour l'avenir, vos projets pour l'avenir?
Eh bien, déjà, moi, je suis dans un état de bonheur, de lévitation à cause de ce banquet d'Auteuil. Vraiment, c'est un moment, un des moments les plus heureux de ma vie. Enfin, il me semble que j'en suis conscient au moment où il a lieu. Vous savez, le bonheur, souvent, se rencontre après qu'il ait eu lieu. Là, vraiment, on est tous d'abord une troupe très, très unie, très heureuse. On est très heureux d'avoir fait ce banquet tous ensemble. Donc, on banquette encore ce soir et demain soir. Et puis, on va essayer de le prolonger. Peut-être cet été, s'il y a un festival ou l'autre veut bien le prendre.
Déjà, il va se jouer la saison prochaine à Paris, au Théâtre 14.
Au Théâtre 14, Jean-Marie Serrault.
Donc avec cette équipe.
Après les 13 vents, le Théâtre 14.
Oui,
vous voyez,
bien sûr.
Mal, on monte. Et ça se jouera en 15. En mars, avril, 15. Donc, les nombres marquent aussi. 13, 14, 15. sur le 17e, évidemment.
En tout cas, nous, à Divergence FM, on a été très heureux de vous accueillir très régulièrement pour cette émission. Je m'aperçois que l'heure tourne. Je vais rappeler que le banquet d'Auteuil, donc c'est au 13 vent ce soir, c'est à 20h30 et samedi, c'est à 19h.
Voilà.
Voilà. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau et puis à très bientôt.
Merci.
On va se séparer avec Marin Marais, le patinage.
Ah ben voilà.
Et je sais, c'est un crime d'interrompre Marin Marais dans ce badinage. Vendredi théâtre, la mission qui parle de l'actualité théâtrale. Je suis avec Tito Livio qui nous a rejoint. Bonjour l'inénarrable Tito.
Bonjour.
Et je suis avec Robin.
Bonjour.
Bonjour Robin. Et nous parlons maintenant d'un spectacle qui a lieu à Jean Villard. Il s'agit de L'Attentat. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Florence Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Et Didier Lagana. Bonjour.
Bonjour.
Alors, L'Attentat, il s'agit donc d'un spectacle d'après Yasmina Kadra. Alors moi, c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur cet écrivain ? Je pense que L'Attentat, ça fait partie d'une trilogie romanesque, déjà.
Tout à fait. Alors, Yasmina Kadra est un auteur algérien qui écrit en langue française. C'est un pseudonyme. Parce que quand il a commencé à écrire, il était colonel au sein de l'armée et ça ne se faisait pas trop d'écrire, donc il a pris le prénom de sa mère. Et c'est un des auteurs les plus lus et les plus traduits dans le monde, dans plus de 40 langues. Alors généralement, il écrit plutôt sur les tensions entre l'Orient et l'Occident et ses principales œuvres sont Les Hirondelles de Kaboul, Les Sirènes de Bagdad et puis également L'Attentat que nous avons choisi d'adapter au théâtre.
Alors, tout le monde l'a vu, l'attentat. Qui veut commencer ?
Moi, je veux bien. D'abord, je trouve que le texte n'était pas évident à comprendre. Déjà, il s'est très bien compris. Donc, c'est très agréable de voir des gens intelligents qui lisent un texte et qui l'adaptent. Parce qu'il y a plein d'ambiguïtés. Il y avait le piège de Sam Bourraché des personnages, qui sont pas forcément tous extrêmement sympathiques ou antipathiques, ils sont ni l'un ni l'autre à mon avis. Donc ils sont donnés tels quels, bruts, de décoffrage, et ça c'est très bien, avec leurs ambiguïtés. Il y a des choses, par exemple, dès le début, au moment de l'attentat, il y a une chose qui est très bien donnée, c'est le manque d'étonnement. Par exemple, c'est un peu comme si chez nous, on se disait « Ah, c'est un accident », vous voyez, un accident de la route. Parce que pour eux, c'est presque aussi normal d'avoir un attentat que pour nous d'avoir un gros accident de la route, quoi.
On va peut-être commencer un petit peu aussi par résumer l'histoire, parce que sinon, oui, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu le début de l'histoire ?
Oui, alors c'est l'histoire d'Amin Jaafari, qui est d'origine palestinienne, qui est né donc dans les territoires palestiniens et qui a été naturalisé israélien. Il est devenu chirurgien, il a fait des études, très intégré dans le plus haut hôpital de Tel Aviv. Et il est marié à Siem Jaafari, qui est elle-même palestinienne, naturalisée israélienne, très bien intégrée aussi. Et un jour, donc ça commence par un attentat, et on lui amène, donc il opère des gens toute la nuit, après il rentre chez lui, on l'appelle d'urgence à l'hôpital, et là on lui amène un corps, disant que c'est le corps de la kamikaze, et il reconnaît le corps de sa femme. Donc tout consiste ensuite à essayer de savoir est-ce que c'est vraiment elle qui a commis l'attentat. Pour lui, c'est impossible, il a rien vu venir. Donc comment c'est possible de vivre avec quelqu'un qui aurait commis un attentat alors qu'on n'a rien vu ? Un attentat suicide. Mmh. Donc il enquête, il essaie de savoir. Il retourne à Bethléem, il va dans les territoires palestiniens, il va dans les mosquées, il essaie d'interroger les chefs de guerre palestiniens, il essaie de comprendre.
C'est aussi une recherche aussi sur le bien et le mal, parce que il n'y a pas de bien et de mal dans toute cette quête. Il va un peu tomber de Carib en Silla.
Oui, il entend les arguments qu'il n'a jamais voulu entendre. Parce que lui, il a construit sa vie en partant, en fait, en oubliant un peu tout ça. Et là, il est mis face aux arguments de ceux qui sont restés, qui ont choisi plutôt de se battre.
Et d'ailleurs, c'est ça qui est déroutant dans la pièce. Nous, en tant que spectateur, on se demande comment est-ce que c'est possible d'avoir réussi à vivre dans cet îlot, dans cette bulle. Et du coup, à force, on réfléchit, on se dit du coup, il y a l'éducation qui joue. On voit qu'il y a beaucoup de rapports au père dans les souvenirs. À chaque fois qu'il est dans une position ambiguë ou qu'il le remet en question, il y a son père qui revient et qui joue un rôle de modération et aussi de volonté. Finalement, volonté qui est pas toujours, qui est assez ambiguë aussi, qui est pas toujours très saine, une volonté assez carriériste d'intégration dans un pays qu'il a rejeté. Et du coup, c'est deux combats qui s'opposent. Il y a le combat du coup de faire reconnaître ses compétences en tant qu'homme et en tant que chirurgien, plutôt que de faire reconnaître sa dignité en tant que Palestinien. Enfin, les deux sont liés, mais du coup, le combat politique est pas clair en fait. Pour cet homme, et il va s'en rendre compte très vite lorsqu'il va en Palestine et dans les zones qui sont touchées par le combat. Mais du coup, il avait déjà été en Palestine. C'est ça que moi j'ai eu un peu du mal à comprendre, son rapport avec la Palestine, parce que il a sa famille en Palestine qui va voir. Mais comment est-ce que ça se fait, du coup, ces zones d'ombre qu'il a sur les rapports de sa famille avec...
Je crois que comme l'a dit Florence, pour se construire, il a quitté. C'est dit dans le roman. Je ne sais pas si, mais il a renié. Il le dit. J'ai abandonné ma mère. Il a fait d'énormes sacrifices pour connaître cette ascension sociale. Mm-hmm. Et effectivement, ensuite, il est bien à l'abri dans sa cage dorée à Tel Aviv, très très bien intégré. Donc il n'allait pas quotidiennement, et c'est un vrai choc pour lui quand il retourne. L'histoire se situe en 2002. C'est une période, c'est la deuxième intifada. On est vraiment dans une période supratendue. Effectivement, comme pour rebondir sur ce que disait Tito, le quotidien, c'est les attentats.
Il y a une vraie forme de banalité de la violence et une habitude très, 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 très forte des populations, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes, au contrôle, au checkpoint, à la violence, aux sirènes, etc. Et c'est ce drame personnel qui vit, qui l'amène à retourner sur la terre de son enfance et à prendre conscience du drame que vit son peuple. Il le dit justement au père dans l'une des dernières scènes quand il a Jenine, pourquoi tu m'as transmis un tel renoncement? Et la réponse du père, c'est tu aurais préféré que je t'incite à tuer. Donc oui, il y a toute cette ambiguïté. Ça fait aussi une des forces de l'écriture de Kadra, c'est justement de jamais être manichéen dans tous ses romans. Et là, on n'a pas les gentils palestiniens les méchants israéliens. C'est bien plus complexe que ça. Je trouve qu'une des forces du roman, c'est de nous donner toute la complexité de ce conflit dont on entend parler depuis qu'on est né, nous, et même depuis que nos parents sont nés. Voilà.
Et pour ajouter par rapport à la dignité, je crois pas qu'il ait renoncé à sa dignité, mais lui, il la place dans le fait de sauver des vies et d'avoir réussi à s'extraire des circonstances là où il est né, qui le réduisait à pouvoir faire que tuer, en fait. Et il est sorti de là, il a réussi à construire quelque chose de fort, et c'est en ça qu'il place sa dignité. Et tout le temps, il défend ça, la vie, le fait de sauver des vies.
Il y a une chose qui n'est pas dite dans la pièce, mais c'est un fait. Il ne pourrait pas être chirurgien en Israël s'il n'avait pas la nationalité israélienne.
Oui.
C'est tout simple. Donc pour être chirurgien, il faut qu'il soit israélien. Donc ça, son choix donc, n'est pas politique. Et ça lui pose, donc on comprend mieux, en sachant ça, ses problèmes de conscience après. Puisque il faut savoir aussi qu'on présente toujours la guerre israélo-palestinienne comme une guerre entre États, alors que c'est une guerre civile. Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont absolument opposés à la politique israélienne, et de l'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les radicaux. Donc c'est une guerre civile, c'est une guerre entre États, mais qui se comporte comme une guerre civile.
Tu as tout à fait raison, tu as 1,2, on ne le sait pas, mais il y a 1,2 million d'Israéliens. Qui ont la nationalité israélienne, qui sont des Palestiniens. Mmh. Et alors, qui n'ont pas le droit de faire leur service militaire. Mmh. Ouais, mais effectivement,
ils ont trois députés, je crois.
Et je peux encore ajouter rapidement. Un petit truc rapidement, c'est que ça parle d'Israël-Palestine, mais ça parle aussi, je pense, de tout peuple qui se sent opprimé, comment réagir face à un oppresseur. Donc plus généralement, d'ailleurs c'est joué par des acteurs qui ne sont pas du tout arabes ni israéliens, donc plus généralement ça parle de ça. Est-ce qu'on choisit la violence, le terrorisme, ou est-ce qu'on choisit au contraire d'accepter ça et de trouver d'autres biais pour se réaliser?
Ce qui est terrible dans le spectacle, moi j'ai trouvé assez terrible, c'est qu'en fait on ne voit pas d'issue, puisque personne n'a raison, tout le monde a tort, et cette absence d'espoir, moi, m'a tout à fait... Et en même temps, je me suis dit, mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible de faire, et on ne voit pas d'issue.
Il a la solution de rendre sa liberté à Dieu.
C'est ça.
C'est une très belle réplique d'ailleurs. Ça. Je vois que l'heure tourne. Je rappelle que le spectacle s'appelle L'Attentat. C'est au théâtre Jean Villard et c'est ce soir à 20h. Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau.
Merci à vous.
Et on va se séparer avec Arthur H., Mystérieux scolaire, avant le troisième plateau.
Mystérieuse, mystérieuse, mystérieuse colère de la terre, la nuit disparaître en douceur, la nuit ne laisser aucune trace, la nuit la joie des jeunes aveugles, la nuit. Un seul souffle. Mystérieuse, mystérieuse colère de la terre. Mystérieuse, mystérieuse, mystérieuse colère de la terre. La des visages muets. La nuit, un seul souffle.
Mystérieuse.
Mystérieuse. Mystérieuse. Mystérieuse colère de la terre.
Mystérieuse.
Mystérieux scolaire sur Divergence FM, Arthur H. Vous êtes sur l'émission Vendredi Théâtre sur le 93.9. Je suis toujours avec Tito Livio et Christopher nous a rejoint. Bonjour Christopher.
Bonjour Florent.
Et nous allons parler maintenant d'un spectacle qui se déroule actuellement au Carré Rondelet. Il s'agit de Gros Câlin et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Thomas De Winter. Bonjour.
Bonjour.
Ah, moi, je n'ai pas encore vu le spectacle Gros Câlin. Je connais bien entendu le roman de Hajar. Si je ne me trompe pas, c'est le premier roman publié sous le nom de Hajar.
C'est le premier, oui.
En 1974.
Exactement.
Alors, Christopher et Tito, vous avez vu le spectacle. Qui veut commencer?
Oui, allez, Christopher. Je vais commencer.
Voilà.
Donc on a eu la chance hier avec Tito d'aller au Carré Rondelet, ça faisait quelque temps qu'on n'y était pas allé, pour aller voir ce spectacle, Gros Câlin. Bon, moi j'avais lu le roman il y a...
Je l'ai lu aussi, mais ça devait être en 74, hein? Donc ça date pas d'hier.
Bon, moi c'était plus récent, mais bon, j'étais resté... C'est le premier roman que j'ai lu d'Émile Hajar, et comme j'en ai lu d'autres après, c'est que j'avais beaucoup aimé. Pour résumer vite.
Le pitch un petit peu.
C'est une histoire un peu absurde d'un homme célibataire qui habite dans la banlieue parisienne, hein, deux pièces, et qui vit et qui a cette singularité de vivre avec un boa, je crois. Un piton, voilà.
Un serpent piton.
Il a l'air d'avoir une vie banale et quand même, le bateau a l'air de prendre l'eau un petit peu, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Monsieur Cousin fait une thèse a priori sur les pitons en début de scène. Donc il vient là pour parler des pitons et au fur et à mesure de sa thèse, on se rend compte que il n'est peut-être pas forcément en train de faire une thèse, il est peut-être uniquement chez lui en train de délirer. Et il explique que quand il rentre chez lui, la seule marque d'affection qu'il a dans sa vie, c'est quand son piton s'enroule autour de lui et il lui fait un gros câlin. Voilà.
dans cette pièce, finalement, il y a des aspects plutôt comiques. Hein. On a des moments... Parce que c'est de l'absurde un peu.
Oui, c'est de l'absurde.
Complètement, il y a des situations... dans le vocabulaire, absurde. C'est particulier quand même.
C'est ça qui est magique dans ce texte, force de le dire, c'est comme une poésie en prose, quoi. C'est un texte à tiroir et il est complètement libre dans les mots, il emploie les mots qu'il veut, même si c'est pas la définition qui qui importe. Ils ont les mots parce qu'ils les aiment, mais ils les détournent, ils les triturent. C'est une sorte de liberté totale d'écrit qui est dans une démonstration complètement absurde, qui finalement, au bout d'un moment, se retombe sur ses... Non pas sur ses pattes, parce que Python n'a pas de pattes, mais qui
est une sorte de... Comme si l'autre, ses mains étaient froides, voilà, comme celle d'un serpent.
Mais qui est une sorte de logique, mine de rien, dans cet absurde.
Et ce qui était très intéressant, c'est que c'est une écriture complètement différente des autres romans de Romain Gary.
Alors moi, j'ai une petite anecdote assez marrante. C'est que la pièce que j'ai jouée à Avignon pour la première fois, on est parti la jouer à Avignon en juillet 2013. Donc, il y a une personne qui est venue me voir après le spectacle. Elle me dit, écoutez, moi, je ne suis pas spécialiste de Romain Gary, mais je suis spécialiste d'Émile Ajar. Et elle préfère les romans d'Ajar à Gary, ce qui est assez étonnant. Il avait un style Ajar et un style
Gary. Tout à fait différent.
C'est complètement différent, ouais.
Mais moi, je voulais vous dire que quand vous les interprétez, vous êtes seul sur scène. Mmh. Et je trouve, c'est vrai qu'il y a un style Émile Ajar, et je trouve que vous apportez, dans votre manière d'interpréter, vous apportez quelque chose au texte encore. J'ai beaucoup apprécié ça. Ce n'est pas juste la lecture du texte, c'est votre interprétation, ça apporte l'émotion, les intonations. J'ai beaucoup apprécié.
Oui, parce qu'il est d'accord avec toi.
Parce qu'il y a un côté gaulois aussi, développement, parce qu'il y a des allusions salaces.
Il y a des allusions salaces.
C'est très compliqué, c'est un malheureux aussi en même temps.
C'est un malheureux, il dit des aberrations. dans tous les domaines, et il est, mais mine de rien, il est touchant parce qu'il est amoureux, il est complètement gauche, il est amoureux, il est gauche, il sait pas comment s'y prendre, et il exprime son angoisse, là c'est qu'une expression d'angoisse, un angoissé de la vie. Quoi.
Mais il a l'air angoissé, c'est être seul et angoissé du début jusqu'à la fin, mais j'ai l'impression un peu de retrouver une sorte aussi de critique de ces grandes villes où finalement on est toujours tout seul.
Voilà, c'est une grande fresque sur la solitude dans la ville et l'incommunicabilité entre les gens. Et il en vient à dire dans le texte qu'il y a une incompréhension réciproque entre les gens qui fait que ça fait un point commun d'amitié. Quoi.
Mais lui, il reste dans l'ascenseur avec son regard le plus expressif mais sans rien dire.
Dans un ascenseur, parce que tout est vrai dans ce qu'il raconte en fait.
C'est du vécu quasiment. On l'a tous vécu la situation de l'ascenseur.
Même la question de la thèse, à mon avis, à un moment donné, il a dû essayer de faire une thèse parce que les trucs qu'on lui donne comme conseil, c'est tout à fait les conneries qu'on nous raconte.
Je voulais vous demander, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait pour avoir une idée?
Oui, bien sûr.
Si c'est possible.
Alors l'extrait, il faut peut-être mettre un petit contexte dans l'extrait, oui. C'est-à-dire que Monsieur Cousin est follement amoureux de Mademoiselle Dreyfus, une collègue de bureau, et il est convaincu qu'il se passe quelque chose entre eux alors qu'il ne lui a jamais parlé. Donc il se fait son film tout seul, et le seul moyen qu'il a, ou le seul contact qu'il a avec elle ou d'échange, c'est quand il est dans l'ascenseur avec elle. Évidemment, il ne lui dit jamais rien, et pour lui, c'est déjà beaucoup. Un petit extrait du passage. Ce fut à 9h23 exactement que se produisit l'événement tant attendu. J'avais déjà laissé passer plusieurs ascenseurs, attendant Mademoiselle Dreyfus comme convenu entre nous par voie intuitive. Lorsque j'ai vu arriver, alors que j'étais déjà pris de panique à l'idée qu'elle n'allait pas venir et que j'allais recevoir une lettre d'elle me disant que tout était fini entre nous. Ici, je suis obligé de faire un détour et de rentrer chez moi avant de revenir dans l'ascenseur et à l'événement capital qui s'y produit. Réflexion faite, afin de ne pas donner une impression de confusion et de nœud inextricable par suite de mes enroulements gracieux et en spirale autour de mon sujet, je décide de rendre compte du bonheur qui me saisit dans l'ascenseur. Lorsque Mademoiselle Dreyfus, alors que nous venions à peine de décoller, me regarda droit dans les yeux, me montra ses dents blanches dans un sourire et me demanda « Et votre Python, comment va-t-il ? » C'était la troisième fois qu'elle s'intéressait ouvertement à moi depuis notre rencontre mémorable sur les Champs-Élysées. Je mis un étage pour retrouver ma voix, comme toujours lorsqu'on a soudain le souffle coupé, car je n'y voyais plus clair. Je vous remercie. Mon Python se développe normalement. Il a pris 2 cm cette année.
Il ne nous restait plus que 2 étages pour tout nous dire, et je me taisais avec tout le don d'expression dont j'étais capable. D'habitude, je porte des lunettes noires de cinéaste pour me donner du poids, comme si j'étais quelqu'un qui risquait d'être reconnu. Mais ce jour-là, je ne les avais pas mises, car je me sentais d'humeur que le diable m'emporte à ses mousquetaires. Je disais tout à Irénée. Je crois même que mon regard chantait avec orchestre et virtuose. De ma vie, je n'étais aussi heureux dans un ascenseur. On avait alors dépassé Hong Kong, Bangkok, Singapour, et l'ascenseur continuait à monter. Mademoiselle Dreyfus me regardait attentivement, en pull-over, avec des seins parfaitement sincères, une mini-jupe en cuir fauve. Oh, je sentais que Mademoiselle Dreyfus me comprenait dans tous mes recoins. Une souris blanche dans une boîte, un piton de 2,20 m dont j'étais le principal interprète, et son sourire se fit encore plus exprimer. Il me semblait que l'ascenseur montait au-delà de tout étage, et c'est seulement lorsque je remarquai qu'il était redescendu au rez-de-chaussée et que j'étais seul que j'ai pu me ressaisir.
Bravo, merci. Bravo, parce que c'est pas un exercice facile. Donc, Le Gros Câlin, c'est au départ un roman. Qui est-ce qui a fait l'adaptation? C'est vous qui avez adapté?
Alors non, l'adaptation a été faite par Thierry Fortino, qui l'a joué il y a 10 ans.
Ah oui, c'est vrai, je me souviens.
Il l'a joué il y a 10 ans, et donc voilà, je le reprends, et je l'ai reprise à Avignon en juillet. Voilà. Donc, voilà, c'était l'adaptation de Thierry Fortino, qui est décédé depuis.
Ah oui, c'est vrai. Voilà.
Mais c'est un très beau texte qui montre, j'ai l'impression de retrouver un peu ce côté de Romain Gary. Je pense qu'il y a aussi un petit peu d'autobiographie peut-être là-dedans.
Voilà, quand on lit un peu sa biographie et après avec Gros Câlin, il y a une sorte de... Il y a du Gary, et c'est énormément du Gary. Quand on voit sa vie, sa manière de changer de peau, quand il change de nom entre Hajar et Gary, enfin, il y a toute la mue du serpent, une quête d'identité, d'envie. C'est une quête de liberté aussi, ce texte, de se dire qu'est-ce que c'est que la liberté? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut changer de peau? Est-ce qu'on peut être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est... Enfin, je le vois aussi. Ça, c'est une des portes qui s'ouvre quand on dit ce texte, enfin, quand on s'intéresse à un... C'est pas le discours premier de cette pièce, mais ça me parle pas mal quand on voit la vie de Gary et on se dit, tiens, il y a beaucoup de lui quand même dans ce texte.
Bon, Romain Gary était à la limite vers la fin de sa vie. Il faisait jouer le rôle d'Émile Ajar sur les plateaux de télé par son cousin. Voilà. Lui-même était Romain Gary. Il était à la limite de la schizophrénie à la fin de sa vie.
Voilà,
quand même.
Exactement. Hein. Ouais.
Il était sur la brèche.
Mais cette schizophrénie lui a quand même permis d'avoir 2 fois le prix Goncourt, ce qui n'est jamais arrivé.
Avec Titon, on se disait que les prix littéraires tuaient la littérature, et lui, comme vous le disiez tout à l'heure...
Voilà. Lui, il a tué les prix littéraires
en ayant deux Goncourt.
Et au niveau du public, est-ce que vous avez des retours du public, puisque vous avez déjà joué le spectacle à Avignon, donc?
Alors voilà, le retour, la petite anecdote dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui sont fans. Il y a beaucoup de fans de Hajar, de Gary. Et alors, soit ils ont plaisir à retrouver le texte, à dire, tiens, effectivement, on l'a lu il y a longtemps, on le retrouve, ça fait vraiment plaisir.
C'était mon cas.
Et voilà. Et d'autres qui me disent, mais c'est... ce texte, qui a écrit ça, est-ce que c'est nouveau, il a l'air très actuel, très nouveau, il est tellement absurde. On dit, mais c'est qui cet auteur et tout, enfin, qui ne connaissent pas du tout, c'est pas grave, mais c'est intéressant de voir qu'il plaît aussi aux gens qui ne connaissent pas du tout et qui se prennent le texte en pleine tête, et voilà, c'est une sorte de fascination.
Peut-être parce qu'il n'est pas goncourable.
Tito a une dent contre les Goncourt.
Je trouve ça a tué la littérature française.
Oui. Il y a une phrase qui dit « il n'y a pas de compétition en art ». De toute façon, il faut...
Non.
Christopher, tu vas peut-être nous rappeler, ça donc se joue au Carré Rondelet.
Oui. Carré Rondelet, ça se joue au Carré Rondelet du 16 au 18 janvier, donc ce soir, vendredi, demain samedi et dimanche.
Alors les horaires.
À 20h30 ce soir et samedi, et le dimanche 19 à 18h.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Merci de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre.
Merci à vous.
Et j'ai choisi pour se quitter, j'ai bien cherché dans les musiques, j'ai trouvé un petit Léo Ferré qui chante Baudelaire, Le Serpent qui danse. Le Serpent qui danse. Merci à tous, très bonne semaine théâtrale à tout le monde, et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres spectacles pour Vendredi Théâtre. Au revoir.
J'aime avoir, cher indolent, de ton corps si beau, comme une étoile vacillante, miroiter la peau sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents. Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.